chambre de Tania lui est devenu impossible. Lui qui méprise superstitions et rituels n'est pas loin de croire à un châtiment du ciel. Tous les jours, il passe à la poste pour téléphoner à Paris. À son retour, personne ne se hasarde à lui poser des questions. En début d'après-midi, au plus fort de la chaleur, Tania enfile une robe légère par-dessus son maillot. Elle descend vers la Creuse, une serviette à son bras. Elle nage d'une rive à l'autre, jusqu'à n'en plus pouvoir. Elle parfait ses plongeons depuis la pile du pont effondré. Dans l'eau glacée, elle voit les herbes qui ondulent, le tapis grisâtre de la vase. Devant ses yeux défile une procession, des débris de végétation entraînés par le courant, happés par les vannes de l'usine. Quand elle émerge dans la lumière aveuglante, elle aspire une goulée d'air, secoue ses cheveux comme pour dissiper un mauvais rêve, et se lance à nouveau dans une nage obstinée. Elle épuise son corps, ne sort de l'eau qu'à bout de souffle, lorsque ses muscles ne répondent plus. Le soir, à la veillée, les conversations languissent. Maxime prend congé le premier. On entend son pas lourd gravir les marches, la porte de sa chambre se refermer. Plus tard, Georges et les femmes montent à leur tour. Tous, avant de sombrer dans le sommeil, pensent aux deux absents, blottis l'un contre l'autre dans une nuit peuplée de sanglots. Maxime n'en peut plus de ces nuits passées à rechercher Anna et Simon. Parfois, repensant au récit de Louise et d'Esther, il maudit l'inconscience de sa femme. Comment a-t-elle pu oublier ses vrais papiers au fond de son sac? Par sa faute, il est peut-être à jamais séparé de son fils. Lorsqu'il émerge de ses semaines d'isolement, son premier regard est pour Tania. Il ne veut plus résister. Une après-midi, alors que la maison s'assoupit, il l'accompagne sur les bords de la rivière. Sans échanger un mot, ils traversent le parc, franchissent le portail qui mène à la berge, et tendent leurs serviettes sur l'herbe tiède. Tania se déshabille devant lui, fait glisser sa robe, et apparaît dans le maillot noir qu'elle portait à l'Alsacienne. Elle plonge aussitôt et commence sa traversée, battant l'eau d'un mouvement régulier. Maxime regarde s'éloigner la silhouette de la nageuse qui fend l'eau scintillante. À mi-chemin, elle s'arrête pour grimper sur la pile du pont, lui adresse un signe. L'air vibre autour d'elle. Elle écarte les bras, cambre le dos. Il voit frémir les muscles de ses cuisses avant qu'elle prenne son essor et reste suspendue un instant dans l'espace. À la vue de cette flèche noire tranchant sur le blanc du ciel, son désir renaît, l'étau se desserre, et il pleure, pour la première fois depuis l'arrivée de Louise et d'Esther. Il ne cherche pas à se cacher de Tania. Lorsqu'elle se hisse sur la berge, il lui offre sa douleur, les yeux nus. Face à lui, elle reste immobile, ruisselante. Elle tend sa main mouillée, il s'en saisit et y enfouit son visage. Elle s'approche de lui. Il entoure sa taille de ses bras et appuie sa joue sur l'étoffe du maillot. Il touche enfin le corps de Tania. Après s'être allongé tant de fois en rêve dans sa chaleur, c'est la peau glacée de la nageuse qui s'offre à lui. L'eau de la Creuse se mêle à ses larmes. Il reste ainsi un long moment, puis se détache, toujours sans un mot. Tania s'allonge à côté de lui et tous deux fixent le ciel. La ville dort. Seul le grondement sourd de l'usine trouble le silence. Maxime sait qu'il ne résistera plus. La nuit venue, il pousse la porte de la chambre, s'y glisse sans bruit, se faufile entre les draps et colle sa peau à celle de la jeune femme. La douleur le submerge. Sa bouche contre celle de Tania, dans la saveur salée de ses larmes, il se presse contre elle, s'enrouler ses muscles, palpite contre le ventre de la jeune femme. Il n'ose aucune caresse, mais s'accroche à son corps, l'entourant de ses bras et de ses jambes. Il s'enivre de son parfum et sombre dans un sommeil sans rêve. Plusieurs nuits, ils s'endorment ainsi, serrés l'un contre l'autre, chassant les ombres qui les entourent. Au petit matin, il regagne sa chambre avec des précautions de collégien. Le séducteur est devenu un adolescent transi, recherchant la douceur et la tendresse de Tania, s'approchant d'elle avec prudence, pour se contenter de ses baisers et du contact de sa peau. Un soir, enfin, il s'autorisera à la prendre. La crainte d'être entendu bridera ses élans. Louise, Esther et Georges ne sont séparés d'eux que par une cloison. Maxime laissera aller et venir ses reins, plongera au plus profond de Tania jusqu'au moment où, n'y tenant plus, il mordra ses lèvres pour ne pas crier. L'effort pour se contenir décuplera son plaisir. Il tient dans ses bras celle qu'il désire depuis des années. Mais sur le point de perdre conscience, c'est l'image d'Anna qui lui apparaît. Alors, de toutes ses forces, il la repousse, rejetant son visage clair dans la nuit. J'en étais là. Grâce aux révélations de Louise, j'avais bâti ce récit pour en arriver à cette nuit. Une nuit durant laquelle un petit garçon et sa mère quittaient définitivement cette terre pour entrer dans le silence. Elle scellait le destin de mes parents et allait me permettre de venir au monde quelques années après la mort de Simon. Je ne pouvais naître qu'à cette condition. Sa vigueur cédait la place à ma fragilité et s'enfonçait dans la nuit afin que je puisse voir le jour. C'était lui ou moi. Un scénario comparable à celui des corps à corps nocturnes avec le frère imaginaire qui partageait ma chambre. On ne prononcera plus son nom, ni celui d'Anna. Ne resteront d'eux que des sacs abandonnés derrière un fauteuil. Des vêtements, des odeurs, un chien de peluche, des objets orphelins, quelques photos que l'on relèguerait dans l'ombre et des pensées coupables dont je supporterai le poids. À Saint-Gaultier, la tension est palpable. Dans le salon, à l'heure de la veillée, dans la salle à manger, au moment des repas, la maisonnée aux aguets observe les amants. Aucun des autres n'est dupe de leur apparente indifférence. Esther se contient avec peine. Elle voudrait crier son mépris, cracher au visage du couple, dont chaque étreinte est une insulte à la mémoire des disparus. Un vrai crime à ses yeux, répété nuit après nuit, exilant à chaque fois un peu plus Anna et Simon. Louise tente de la calmer, elle-même déchirée, à la fois indignée par la trahison de Maxime et poussée à l'indulgence. Troublée par la beauté triomphante de Tania, elle accepte leur rencontre comme un fait du ciel contre lequel il serait vain de lutter. Thérèse souffre en silence. Elle a retrouvé sa défiance habituelle vis-à-vis des hommes. Maxime est semblable aux autres, elle aurait dû s'en douter. Un de ceux dont elle s'est préservée, un mâle préoccupé de son seul plaisir. Son instinct ne l'a pas trompée. L'arrivée de Tania a marqué la fin d'une période heureuse. Elle rudoie son père, pointilleuse sur les questions d'intendance. Elle tyrannise la maisonnée et se retire aussi souvent que possible dans sa chambre pour remplir d'amertume les pages de son journal. Georges et le colonel jugent sévèrement le comportement des deux amants, mais considèrent cette union comme inévitable. Le seul moyen pour Maxime de survivre à sa douleur. Que s'était-il passé ensuite? Mon père et ma mère, coupables aux yeux de tous, déchirés par leurs désirs, avaient-ils osé s'aimer au grand jour, se promener main dans la main sur les rives de la Creuse, afficher leur liaison aux yeux de leur famille? Peu à peu, sans doute, avec d'infimes gestes au début, puis s'enhardissant au fil du temps. Je me demandais si Esther avait affronté ma mère. J'imaginais bien ma tante, au profil de tragédienne, hurlant son indignation à la face de sa belle-sœur, capitulant devant ses larmes, tombant dans ses bras et recueillant enfin ses confidences. Les semaines s'étaient écoulées, les regards s'étaient sans doute adoucis et la vie avait repris son cours, jusqu'à ce que l'horreur se fraye un chemin au travers de la barrière de tranquillité qui protégeait Saint-Gaultier. La rumeur commence à circuler dans la rue, chez les commerçants, au hasard des conversations. On ne peut plus se voiler la face, croire à un simple déplacement de population. On parle désormais d'extermination systématique, de camp de la mort. Lorsque ces informations franchissent le seuil de la maison, projetant sur les murs des images de convois de barbelés, comment Maxime peut-il encore trouver le sommeil? Anna et Simon reviennent hanter ses nuits. Il n'a plus la ressource de les croire prisonniers de l'autre côté de la ligne de démarcation. Il doit maintenant envisager le pire. Il m'a fallu imaginer les jours qui allaient suivre, jusqu'à la fin de la guerre. Alors on saurait. La déportation des parents d'Anna, après la grande rafle. La mort de Robert dans un stalag, victime du typhus. Un obstacle de moins, sur le chemin de Maxime et de Tania. Le garçon, au regard moqueur, balayé, lui aussi, par l'histoire. et l'on connaîtrait enfin la destination du convoi.